franceinter.fr.
Cuba en direct en compagnie de Rebecca Manzoni et Olivier Poujade, ici depuis le toit terrasse d'une très vieille maison du centre de La Havane, la capitale la plus dépaysante et la plus photogénique qui soit, avec ses merveilles d'architecture coloniale espagnole dans la vieille Havane, Vieja Habana, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Havane, une ville sans stress, sans embouteillage, sans panneaux publicitaires ni enseignes lumineuses, presque sans aucun signe de modernité, avec à chaque coin de rue des effigies de Che Guevara et bien sûr ces rutilantes américaines des années 50 qui vous donnent l'illusion d'avoir été projeté dans le tournage d'American Graffiti. Mais ce matin, pour cette émission spéciale, on va laisser de côté les voitures, le rhum, les cigares et tous les autres clichés pour touristes pour s'intéresser à la vie quotidienne des Cubains, une vie qui pour certains se prolonge la nuit. Il est près de 2h du matin, mais La Havane ne dort jamais complètement. Rebecca Manzoni, vous venez en témoigner sur le Malecón, le front de mer de La Havane, ou au cœur du centre historique de la ville, on entend du son, du merengue ou de la salsa traditionnelle.
Ay, 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 esa negra linda, que me tome loco.
Cette musique, c'est celle que viennent chercher les touristes à Cuba. On l'entend dans la rue, on l'entend dans des clubs où la plupart des Cubains n'ont pas les moyens d'entrer. Si on quitte le centre historique pour aller dans le quartier populaire de Buena Vista, qui a donné son nom au groupe qu'on connaît tous, dans les bars, on entend ça. Madonna, qu'on regarde se déhancher sur un écran plat pour diffuser un clip de Madonna dans son bar, la propriétaire a acheté une clé USB remplie de fichiers numériques qu'un particulier a téléchargé pour elle. Parce qu'à La Havane, seulement 3% des foyers ont une connexion Internet. Entrez. Asseyez-vous. Martha fait commerce de ces clés USB remplies de fichiers numériques, on appelle ça le paquete. Elle le vend chez elle, le paquete est devenu une économie parallèle à Cuba.
Il y a des personnes qui s'occupent de télécharger tous ces fichiers et de les monter pour couper les publicités. Comme ça, c'est autant de place gagnée sur la clé USB. Le paquete sort toutes les semaines, il est prêt chaque samedi.
Programme chrétien, film X, les fonds d'écran de la semaine ou les derniers antivirus, Martha met à disposition de ses clients une quinzaine de feuilles agrafées où elle a détaillé le contenu du paquet.
Ce qui est le plus demandé, ce sont les telenovelas, les séries, les programmes de télé-réalité et les films. Par exemple, en ce moment, ce qui a le plus de succès, c'est Fast and Furious 7. Le paquet permet aux Cubains d'être au courant des dernières sorties. Je t'assure, tout ce qui se dit d'important dans les réseaux sociaux, tu le trouves dans le paquet. Par exemple, si Jennifer Lopez divorce de Marc Anthony et qu'elle le déclare sur Facebook ou sur YouTube, ce sera dans le paquet.
Un paquet acheté le samedi, le jour de sa sortie, c'est 5$. Et plus les jours passent, plus il perd de sa valeur jusqu'à la sortie de la nouvelle version. Martha a monté sa petite entreprise depuis 3 ans. Avant, elle a été prof pendant 19 ans.
Ce n'est un secret pour personne qu'ici le salaire ne couvre pas les besoins des Cubains. C'est sûr que dans une entreprise privée, l'argent rentre tous les jours. Même si ce n'est pas beaucoup, tu vas toujours gagner beaucoup plus que si tu travaillais pour l'État. C'est sans comparaison.
Voilà l'histoire de Martha, ancienne prof devenue commerçante de paqueté, car la grande majorité des Cubains a suivi des études universitaires pour exercer des métiers qui la plupart du temps ne leur suffisent pas pour vivre. Olivier Poujade, ils sont nombreux aujourd'hui à abandonner leur carrière pour se tourner vers des activités plus rémunératrices, comme chauffeur de taxi.
Alors il y a plusieurs types de taxis, les boteros qui conduisent ces vieilles Chevrolet américaines des années 50 et font des allers-retours sur la même avenue, ceux qui s'accommodent du modèle plus petit, la Lada de l'époque soviétique, et ceux qui conduisent des voitures récentes louées à l'État. C'est à bord de l'un de ces taxis flambant neufs que nous retrouvons Yeni. C'est assez rare de voir ici une femme conduire un taxi. Nous sommes sur le Malecón, la grande rue qui longe le bord de mer. Yeni tapote sur le volant au rythme d'un reggaeton cubain. Elle dit qu'elle a retrouvé le sourire en faisant ce nouveau métier. Il y a 3 ans, elle quitte son poste de pédiatre pour apprendre à conduire et suivre des cours d'anglais.
Ma situation était devenue très difficile. J'ai une fille, ma maman, et je dois m'occuper d'elle et de la maison. Alors j'ai décidé d'être chauffeur de taxi.
Elle regrette à peine d'avoir quitté l'hôpital. Son nouveau métier lui permet de voir la ville se transformer, mais surtout de ne plus s'inquiéter à la fin du mois.
Dès que tu es en contact direct avec le tourisme, tu as plus de chances de gagner de l'argent, grâce au pourboire notamment. C'est fondamental. Ça m'a vraiment aidé à respirer.
Yénine ne se sent pas non plus dépaysée tous les matins quand elle vient travailler. Beaucoup de chauffeurs de taxi ont fait le même choix qu'elle.
Parmi mes collègues, il y a des médecins, des ingénieurs, beaucoup d'universitaires qui sont devenus taxistes.
Avant, Yeni recevait l'équivalent de 30 euros à chaque fin de mois. Aujourd'hui, elle empoche en moyenne la même somme tous les 3 jours.
Olivier, merci. Et avec ça, évidemment, il faut se loger. On évoque à présent la question du logement avec vous, Rebecca Manzoni, dans le quartier populaire de Buena Vista.
La télé est allumée et les enfants sont devant. Michael a 40 ans, il est monteur dans une boîte de production et il me fait visiter l'endroit où il vit, 20 mètres carrés environ, où sont concentrés bureaux, cuisine, salle de bain et chambre.
Ici, c'est ma chambre. Voilà mes deux fils. Là, c'est le lit superposé que j'ai acheté. Là, un grand lit pour mon épouse et moi. On y est tous très heureux, les 4 membres de ma famille.
De l'autre côté de la cloison vivent sa mère, sa grand-mère et sa belle-mère, 7 personnes en tout, sous le même toit. Une petite maison qui a été redistribuée avec le temps.
Le plus difficile, c'est le choc des générations dans tous les foyers. Avec le temps, les générations s'entassent dans le même logement. Moi, je suis né dans le quartier de Buena Vista, et au train où vont les choses, je pense que j'y mourrais. Rien n'est mis en place pour qu'un jeune Cubain de 18 ans devienne indépendant et vive seul. Il y a très peu de logements. Le gouvernement a tenté de mettre en chantier des constructions pour la population, mais elles s'arrêtent en cours de route. En fait, les autorités donnent la priorité aux hôtels et aux infrastructures touristiques. La population cubaine, c'est la dernière roue du carrosse. Et on traîne ce problème depuis 40, 50 ans. J'ai vraiment la sensation de vivre dans un pays qui sort de la guerre alors qu'elle n'a pas eu lieu.
Voilà la question du logement. L'alimentation à présent, il n'y a pas de famine à Cuba grâce à la Libreta, c'est ce que dit le gouvernement cubain. C'est un programme unique au monde qui assure un minimum de nourriture à toute la population. Comment ça fonctionne, Olivier Poujade? Est-ce que cet accès à une alimentation subventionnée permet aux Cubains de s'en sortir?
C'est ce que nous avons demandé à Marianne. Elle est dans sa cuisine et nous montre tous les produits qu'elle achète dans les bodegas, des comptoirs où chaque mois on se présente avec son carnet de rationnement et où l'on peut acheter une base alimentaire, en fait. Une poignée de haricots, 2,5 kg de riz, une cuisse de poulet, une petite bouteille d'huile quand il y en a, 5 œufs et du lait en poudre pour les familles qui ont des enfants de moins de 7 ans. Tout cela pour environ 1 $, ce qui permet aux Cubains de tenir à peu près une grosse semaine. Pour le reste, tout s'achète au marché noir, des produits tombés du camion ou dans les boutiques en pesos convertibles indexés sur le dollar. Et là, ça devient hors de prix, donc on se débrouille, on passe l'essentiel de son temps à se donner des coups de main entre voisins.
Des fois, il y a des choses qui me restent dans les placards, et je leur donne. Parfois, c'est l'inverse. Et on fait comme ça, on s'entraide. L'huile, ça coûte 3 $, moi je peux pas. Du coup, je vais voir si la voisine peut m'en donner un peu, et c'est comme ça qu'on passe notre temps à faire des tours de quartier. Parce que sinon, ça coûte vraiment trop cher.
Marianne fait des ménages, elle n'a qu'une 20aine de $ pour vivre, ce qui est déjà 2 fois plus hein, qu'un salaire de base de l'État. Les 3/4 des revenus servent la plupart du temps ici à s'acheter de la nourriture quand on la trouve. Hein. Le poisson, la viande de bœuf sont réservés aux restaurants, aux hôtels. Et c'est toujours très intéressant d'avoir un ami, un voisin qui, d'une manière ou d'une autre, a accès à ces stocks. C'est ce qu'on appelle le robo de Estado, autrement dit, une façon de voler l'État.
Reportage signé Rebecca Manzoni et Olivier Poujade.